coup de foudre, amour, c'est ça. Ah ouais, bah gros bullshit ça. Hein. Ah ouais, on te vend. Non mais sincèrement, on te vend. Et j'ai dit, j'ai pas envie, contre cliché, on te vend l'amour dans les séries américaines etc. Mais gros, gros, gros bullshit parce que quand il y a de l'amour, le jour où tu te rends compte, le jour où tu traverses des turbulences, le jour où tu te rends compte qu'il y a, il y a du conflit, le jour où tu te rends compte que finalement les valeurs étaient pas alignées en fait. Ouais. Bah, l'amour, ça tient plus.
Oyez la popu, bienvenue sur Artisans d'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit. Samy, c'est le type en constante recherche de soi, d'élévation et d'authenticité. Ce que j'aime chez lui, c'est sa transparence. Originaire de Belleville, il grandit discrètement. Du mal à connecter avec les autres, plutôt solitaire, jusqu'à ce qu'il développe son côté aventurier. Notamment via l'entrepreneuriat où il apprend à se redécouvrir à travers divers challenges tels que « J'irai business chez vous ». Aujourd'hui, avec plus de maturité, il cofonde Ma Brand. Samy, bienvenue sur Artisans d'Esprit pour la saison 2. Je suis content de t'avoir. Je commence avec une question très phare qui est « Comment va ton cœur ?»
Comment va mon cœur ? C'est une question intéressante. J'ai entendu une histoire, c'est au Mexique qu'on dit ça, je crois. Je sais pas.
Ah bon ? Je savais
pas. C'est un ami qui m'avait raconté ça. Ok. Et que quand tu poses cette question, tu t'engages à écouter la réponse. Donc j'espère que tu t'engages à écouter.
Je suis plus que tout oui.
En ce moment, mon cœur, il est, je dirais, chargé. Chargé d'émotions parce que, comme tu le sais, dans l'entrepreneuriat, on est amené en fait à vivre énormément de choses, énormément de turbulences notamment. Surtout quand t'es en plein dans un projet. Mmh. Donc frustration, bonheur, tu vois, c'est l'ascenseur émotionnel 99% du temps. Et moi, je suis un être émotionnel. Que je vis pleinement les choses, tu vois, je dirais pas que je m'en empêche pas, c'est juste que je ne peux pas m'en empêcher, tu vois, c'est ma manière d'être.
Ok.
Donc là, en ce moment, mon cœur est chargé, mais il va dans l'ensemble bien. Que ça fait partie du, c'est un choix, hein, c'est un choix de vie, donc j'accepte en même temps les ce qui va avec, les bons, les mauvais côtés.
Très bien, merci pour ta réponse, ouais. Authentique et sincère. Deuxième question, est-ce que tu peux raconter ta jeunesse, mais à travers ton quartier.
Ma jeunesse, mais à travers mon quartier. Pour toi, la jeunesse, ça commence à quel âge ?
Spontanément, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Les premiers souvenirs, souvent, okay. Tu vois.
Alors moi, déjà, j'aimerais redéfinir le mot quartier. Tu vois, parce que y a tout un imaginaire collectif autour du mot quartier. Mmh. Je me considère pas, par exemple, genre, dans quartier, je mets pas forcément cité, je mets pas forcément ghetto, je mets pas forcément toute cette image qu'on positive ou négative en fonction de là d'où l'on vient. Moi, je viens du 19e à la base, je suis né dans le 19e. Enfin, je suis né dans le 10e précisément, hôpital Lariboisière,
okay.
Entre Barbès et Gare du Nord. Et mes premiers souvenirs, on va dire, qui commencent tous à l'entour de 3-4 ans. Donc dans le 19e, métro Riquet, Riquet.
Ouais.
J'ai pas spécialement grandi dans le quartier, j'étais pas loin de l'avenue Flandre, donc c'est-à-dire que j'étais entre les rues lambda, tu vois, à laquelle on n'accorde pas trop d'importance ou qui a pas forcément une renommée, une histoire ou quoi, et les cités Cambrai-Curial. Donc je passais par là pour aller à l'école, à la crèche, à l'école primaire, etc. Mmh. Et voilà, donc je... À la maternelle d'ailleurs, je passais de la crèche à la primaire. Je passais pas cette classe, mais tu m'as compris. Ouais. Et voilà, donc j'ai grandi là-bas pendant une petite partie de ma vie. Et puis je suis remonté vers les quartiers Pyrénées, Belleville, à l'âge de 6 ans. Mmh. Et c'est là-bas que j'ai vécu la majorité de ma vie, en fait, hein, jusqu'à mes 27 ans.
C'est quoi tes premiers souvenirs là-bas ?
Mes premiers souvenirs, c'est... Je me rappelle pas mal du 11 septembre, comme beaucoup, je pense.
Ouais.
Avant ça, bon, voilà, je me rappelle de quelques souvenirs dans la cour de récré de mon enfance, mais sans plus, tu vois, c'est vraiment celui qui m'a marqué, c'est le 11 septembre.
Ok.
Je me rappelle que, moi, j'étais chez moi pour le coup. Je regardais la télé. Ma mère était pas très présente parce que je suis fils unique, élevé par une mère célibataire, donc elle était au travail. Ouais. J'étais tout seul souvent à la maison. Et du coup, voilà, je me rappelle de ce truc-là. Je me rappelle de la minute de silence le lendemain où je comprenais pas trop ce qui se passait et où justement, moi, au moment de la minute de silence, je regardais en l'air et je voyais un avion passer. Et je me disais, tiens, c'est...
Okay.
Alors, avec le recul, je me dis que c'était ironique un peu de voir, de vivre ce truc-là. Et puis après, je me rappelle particulièrement d'un été où j'étais tout seul et où franchement, c'était... extrêmement difficile pour moi. J'étais très couvé, protégé par ma mère. Du coup, je sortais très très peu,
okay,
jusqu'à un certain âge, et donc je me rappelle que j'avais pas le droit de sortir, tu vois.
C'était quoi, considéré comme une frustration?
Ah, mais c'était ça me mettait en colère, quoi, carrément. Okay. Genre, je tournais en rond, c'était un ennui mortel. Je l'ai très mal vécu cet été.
Ouais.
Et d'ailleurs, il me semble que c'était l'été de la Coupe du Monde 98.
En plus,
ouais,
là où il y a une bête d'ambiance,
et ouais, clairement. Je me rappelle de la soirée, de la finale, etc. Tu vois, mais genre, je me rappelle que c'était là, c'était incroyable.
Ça veut dire que tu regardais par la fenêtre, tu vois tout le monde délirer, toi, t'es ah ouais, j'avoue, c'est dur ça.
Clairement.
Oh, ok. Et comment t'étais à l'école?
J'étais turbulent. J'étais spé un peu. J'avais pas beaucoup d'amis. Je tournais tout seul dans la cour de récré. Je te parlais tout seul aussi parce que j'avais du mal à me faire à connecter avec les autres. La communication, c'est pas quelque chose de très que j'avais d'une manière très maîtrisée à l'époque, dans ma famille non plus, tu vois, c'est pas quelque chose de très répandu, de très pris en compte dans les relations. Et du coup, je me rappelle vraiment, j'avais du mal à me faire des amis. Scolairement parlant, j'étais plutôt bon élève parce que, comme je te le disais, ma mère était très beaucoup cadrée, tu vois, donc j'avais ce truc là de beaucoup travailler, etc. Jusqu'à un moment, il y a eu un switch au collège, je dirais. Pareil, tu vois, au collège, j'ai tenu un peu, mais voilà, vers quatrième, troisième, ça a commencé un peu à baisser. Je suis quand même passé au lycée de justesse et au lycée de dégringolade totale, quoi.
Okay.
Changement d'ambiance. J'étais perdu, vraiment, j'étais du père, complètement.
Ok, mais c'est quoi qui a fait qu'il y a eu ce changement?
Je sais pas, je pense que c'est le...
C'est l'adolescence.
Ouais, l'adolescence, tu vois, je pense. Puis il y a aussi un effet où, tu vois... École primaire, collège, j'avais beaucoup de mal déjà à me faire des amis. Puis arrivé au lycée, c'est un autre délire, tu vois, parce que tu commences à avoir cet effet de jugement, de où tu sais, t'as envie de t'essaies de trouver ta place. Ouais, t'as une histoire d'identité, tu vois. Identité, c'est quelque chose de très marqué dans mon histoire.
Ouais.
Et tu verras que ça s'est transformé en quelque chose. Finalement, on en reparlera. Mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place. J'étais en plus dans un lycée qui était vraiment, pour le coup, là c'était un autre délire, tu vois, c'était assez ghetto. C'était pas, tu vois, je considère pas venir d'une cité ou d'un ghetto, tu vois. J'ai grandi entre différents quartiers, mais je me suis jamais vraiment imprégné du truc, tu vois, même si voilà, j'ai pris les codes, etc. Et quand je suis arrivé dans le truc, là, pour le coup, j'étais dans une cité. Le lycée, c'était, je pourrais le considérer comme une cité, tu vois. Il y avait des groupes, il y avait des clans, des gens du même quartier qui se réunissaient entre eux. Il y avait des querelles entre quartiers, mais au sein du lycée, tu vois. Puis c'était un lycée collège. Le collège, c'était encore plus ghetto, tu vois.
C'était un lycée, un collège réunis.
En même temps,
ouais.
Wow. Du coup, c'était un délire, tu vois. Et moi, j'avais le sentiment un peu que la cité, c'était le collège.
Ouais.
Tu vois. Et que le lycée, c'était un truc, c'était un endroit intermédiaire où il y avait ce truc-là de, ça se, on va dire la couleur, c'est comme si la couleur du collège prenait un peu, teintait un peu celle du lycée.
D'accord.
Et que arrivé vers les dernières années de lycée, ça commençait un peu à changer, et puis que quand tu quittes, tu prends le bagage qui va avec.
T'as dit un truc hyper intéressant, c'est que déjà, à un moment donné de ta vie, t'as tout de suite capté que t'étais tout seul, t'étais dans ton monde à toi, tu te sentais déjà différent, tu parlais même tout seul, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que t'as commencé à parler tout seul parce que t'étais seul, ou est-ce que tu t'es retrouvé seul parce que tu parlais tout seul?
Non, c'est parce que j'étais seul, clairement. Fils unique, regarde, je suis fils unique, comme je disais plus tôt, élevé par une mère célibataire. Donc ma mère était jamais là, parce qu'il faut bien mettre du pain sur la table, tu vois.
Oui, bien sûr.
Du coup, grand respect à elle pour ça, parce que c'est pas quelque chose de facile. Et en même temps, t'es livré à toi-même, donc tu deviens autonome très rapidement. Mais t'es seul, littéralement, tu vois. Y a personne, quoi, tu vois. De 7h30 à 19h30, pendant 12 heures, surtout dans l'été dont je te parlais tout à l'heure. Voilà, il faut que tu trouves des moyens de t'occuper. T'as pas beaucoup de moyens. Tu vois, en tout cas, j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque. Donc, je meuble, je comble, j'essaie de créer un dialogue avec moi-même pour le coup.
Ouais, je vois. Et est-ce que t'as eu l'impression d'avoir grandi trop vite pour le coup? Tu vois, peut-être limite, peut-être pas un adulte, mais proche.
Je pense un adulte, peut-être pas. Mais ouais, c'est vrai que je pense que j'ai grandi un peu vite pour différentes raisons, notamment pour le cadre dans lequel j'ai grandi, parce qu'il y a eu un certain cadre dans ma vie, un cadre pas au sens de cadrer cette fois-ci, mais au sens de contexte familial, etc. Le fait de devenir autonome rapidement, il y a aussi un fait intéressant, c'est que ma mère très rapidement m'a mis des livres dans les mains.
Okay.
Et c'était pas forcément des livres de mon âge, tu vois. Ouais. C'était genre des livres de 300 pages avec un vocabulaire qu'on n'a pas forcément à l'âge auquel je lisais ces livres. Et du coup, c'est vrai que ça a développé une pensée peut-être un peu plus complexe.
Okay.
Je sais pas si ça a été bénéfique ou négatif, en tout cas à ce moment-là, mais ça m'a permis
de te construire.
De me construire, et c'est ce qui a contribué pour la grande majorité à ma construction, quoi.
On avance un peu dans le temps. Après plusieurs échecs à l'examen du bac, malgré les efforts, Samy décide de lâcher prise et de commencer à bosser. Mais, en parallèle, il finit par avoir son bac en candidat libre. Et surtout, de rendre fière sa mère par la même occasion.
Ça, c'est pour moi, c'est la première partie de ta vie, en vrai, tu vois. C'est la première partie d'un point de vue études, apprentissage et tout. Après, tu commences à te lancer un petit peu dans... l'entrepreneuriat, peut-être officieusement, entre le MLM, entre l'aspect branding aussi que tu découvres et tout, c'est ça?
Regarde, pour refaire le truc court, CAP cuisine, très mauvaise expérience, je passe en service, je fais du service pendant 2 ans, je passe dans le ferroviaire pour changer, tu vois, je vais à l'opposé. Et arrivé dans le ferroviaire, en fait, je comprends, et c'est une partie importante parce que, si tu veux, j'avais cette truc cuisine où c'était très difficile. Et ce truc ferroviaire, c'était un peu genre, je me suis dit, c'est peut-être la planque pour moi. Parce que des gros salaires, parce que voilà, je me dis, ok, une fois que t'as ton CDI,
pas beaucoup de taf,
etc., pas beaucoup de taf. Voilà. Sauf qu'en fait, pas du tout, quoi. Genre, grosse déception, je me dis, waouh, en fait, je pensais de nouveau avoir trouvé quelque chose, et en fait, pas du tout. Et c'est là où je me dis, en fait, c'est ni, genre, j'étais pas passionné, parce que la cuisine travaille de passion, restauration travaille de passion. C'est ni la passion, ni la planque qui me plaît, c'est la liberté. Et à ce moment-là, donc, je commence à réfléchir à, tu sais, genre, j'ai tapé sur Internet comment devenir riche.
Ouais.
En 2015. Ouais. Ça,
2016. Je crois qu'on a tous fait au moins une fois dans sa vie, ça.
C'est ça. Et moi, j'ai pris la décision d'aller au bout de ce truc-là.
Ok.
Donc, je tombe sur une formation. Dropshipping.
Ah.
Voilà, le fameux.
Tu vois. Le fameux.
Que je ne suis que pendant 2 semaines. Mmh. Quand je comprends qu'en fait, tu sais, ils te vendent toujours un truc, ah, c'est automatisable, t'as quasi rien à faire, etc. En plus, la tagline de la formation, c'était « On a fait 1 million en 24 heures
ouais. ».
Donc, je me laisse attraper par ce truc-là. J'ai 2 semaines, j'arrête. Je trouve une nouvelle formation. Et cette fois-ci, une formation qu'on a en commun, je crois, qui est une formation de blogging. Mm-hmm. Et comme à cette époque, je commençais à découvrir le développement personnel, effectivement,
ouais.
Et que je prends goût à ça. Je me dis, faut que je pousse en ce sens. Donc, je vais faire un blog sur le développement personnel.
Ouais.
Et là, je commence à arpenter les trucs de productivité, comment se dépasser, la confiance en soi. Tu sais, des concepts un peu basiques.
Ouais.
Que j'essaye de partager avec une communauté.
Après, c'est basique, mais à ce moment-là, à cette époque, quand on découvre ça, c'est quand même une forme de révolution, tu vois. Parce que, en tout cas, moi, à titre perso, quand je découvre ça, je me dis, mais même si c'est des solutions simples, des outils simples, pourquoi il faut que je tombe par hasard sur Internet sur ça pour comprendre que j'ai le potentiel, j'ai le machin, j'ai le truc et tout, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas aussi, un peu comme moi, une révolte où tu te dis, je vais partager des trucs que les gens ne savent pas et que j'aurais aimé savoir à l'époque?
Eh ben, figure-toi que pas du tout.
Ok.
Moi, à la base, le développement personnel, je le découvre à travers la lecture rapide.
Ouais.
Donc, d'un dénommé Steve.
Ouais.
Et je me dis, tiens, je vais aller voir ce truc-là. Je me rappelle que je voulais une formation. Donc, c'était celle-ci, la formation en ligne de lecture rapide. et qu'avec cette formation, ils faisaient une offre avec un autre gars, tu vois, ils s'étaient associés les deux. Et genre, si tu prenais la formation de lecture rapide, t'avais la formation blogging, ou l'inverse, je sais plus laquelle je voulais, mais il y avait un truc comme ça. Donc, moi, je découvre ça à travers la lecture rapide, je commence à... c'était un été, tu vois, je m'en souviens encore, je commence à remettre en question mon taf dans le ferroviaire, et je me dis, faut que je trouve autre chose. Donc, j'arpente les vidéos, lecture rapide, je me souviens plus, tu vois, confiance en soi, les trucs comme ça, productivité, les trucs. Et je commence la formation, je l'abandonne très rapidement, j'abandonne beaucoup de choses à la suite de dans mon parcours. Et moi, quand je lance ce truc-là, ce blog-là, je me dis, non, il faut que je trouve un moyen d'être libre, il faut que je trouve un moyen de vendre quelque chose. Je sais que dans la formation, le gars il te dit, faut que tu prennes un truc où t'es passionné ou en tout cas où t'as un intérêt, sinon ça marchera pas. Et c'est ce que je fais. Développement personnel, qu'est-ce que je peux vendre? Je sais pas encore, peut-être une formation en ligne, un truc comme ça. C'est en ce sens que je vais. Et je me prends en fait de plus en plus de passion pour le truc, et je commence à m'appliquer ces concepts parce que je me dis, mais en fait, je peux pas vendre des trucs que je m'applique pas. Tu vois? Et là, je commence à me dire, il faut que je partage avec des gens et que je crée une communauté autour de ça et que voilà, je le fasse. Et petit à petit, je commence à recevoir des mails de certaines personnes qui lisent mes articles de blog.
Okay.
Qui me disent, ouais, merci, machin, mon fils, grâce à toi, blablabla. Tu vois, je me dis, ah putain, ça marche.
Ça marche, ouais.
Et voilà, et c'est comme ça que je commence, en fait.
C'est comme ça que tu commences. En vrai, c'est lié dev perso et entrepreneuriat. C'est, les deux commencent plus ou moins au même moment, en fait. Ok, d'accord, je comprends mieux. Si tu devais spontanément me dire une seule leçon de vie que tu as eue par rapport à cette période, ce serait quoi?
C'est une leçon de vie que je prends à posteriori encore. Hein. C'est vraiment avec le recul. D'ailleurs, c'est un gros sujet en ce moment dans ma vie. C'est bien de connaître des choses, mais ça suffit pas. Tu vois. Et en particulier avec le développement personnel, avec l'entrepreneuriat, avec le marketing et tout ce que tu veux, t'as beau connaître les concepts, ça ne suffira pas à garantir ton succès dans le domaine en question.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut en plus alors?
Ce serait trop facile de le dire, mais je pense que c'est l'application de ces concepts, tu vois. Mais même l'application, comme ça, je me dis que ça suffit pas. Il y a quelque chose qu'il faut. C'est là, comme ça, aujourd'hui, j'ai pas trouvé la réponse, malheureusement. Ouais. Et là, je parle de manière personnelle. Hein. Il y en a qui diront l'application suffit, mais pas pour moi en tout cas.
Ok, on peut pas reprendre l'image du sport. C'est bien beau de connaître la théorie sur comment faire pousser ses pecs ou un truc comme ça. C'est pas que faire des pompes. C'est la technique, c'est la répétition, c'est toutes ces choses-là en fait. Et puis il y a toujours un espèce d'indicateur qui est très subjectif. On sait pas, mais à force de répéter, ben qui se cache derrière la répétition et tout. C'est un peu ça, je pense, non?
Je pense que ouais. D'ailleurs, là en t'entendant, je me dis que ce qui me manque, c'est peut-être la répétition, la discipline. C'est peut-être ça, tu vois. C'est des choses qui me manquent. Pas dans tout, mais en tout cas dans la majorité des sujets que je pense connaître.
Ok. Il y a un post que t'as mis sur LinkedIn il y a plusieurs semaines maintenant. Je les screen parce que pour moi c'est important d'être transparent à ce niveau-là. C'est quand tu parles des 7 choses sombres sur l'entrepreneuriat dont on ne parle jamais. Je vais te les rappeler. La première, c'est tu ne seras pas soutenu par tes proches. La deuxième, c'est certains d'entre eux préféreront acheter chez la concurrence plutôt que chez toi. Des prospects se montreront très enthousiastes puis disparaîtront. Tu seras trahi par les partenaires, associés, amis pour de l'argent. Tu décevras des clients. Tu te dévaloriseras. Ils parleront de tes échecs. Ils ignoreront tes succès. Et en plus, ils te jalouseront. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça déjà?
Oui, je suis toujours d'accord. Après, comme je dis dans tout, hein, c'est toujours personnel. Tu vois, il y a des gens qui vont avoir des proches qui vont les soutenir dans leur projet et qui vivront pas du tout ce que j'ai présenté là. Mais dans la majorité des cas, tu rencontres au moins un de ces points, quoi.
Ouais. J'ai l'impression que parfois tu fais des posts un peu comme moi, ce que je fais dans mes podcasts, c'est mes notes à moi-même, des petites leçons de vie. Tu sais, en fait, je me parle à moi-même.
Carrément.
Tu vois.
Et tous mes posts, c'est ça. Tu vois. Ouais. Que ce soit des posts motivants ou pas. C'est 99% du temps, c'est pour moi. Ouais, c'est pour me dire...
Le « tu », c'est à toi, c'est Samy, c'est pas « tu », la personne qui lit, en fait.
Ça dépend, tu vois. En tout cas, je me dis que ce que je me dis à moi-même, ça sert... Je pense qu'on s'identifie toujours à ce qu'on lit ou tu vois, surtout sur les réseaux sociaux. Tu vois, quand tu consommes du contenu, c'est que soit tu t'identifies à la personne qui le... ouais, je pense que tu t'identifies toujours à la personne. Ouais. Sinon, tu le lis pas. Ou alors, tu les lis pour critiquer, si t'es pas d'accord. Ou alors, tu les lis parce que tu partages la vie, mais sans plus, tu.
Ouais, ouais.
Mais en m'adressant à moi-même, je pense que je m'adresse aussi aux gens qui s'identifient.
Mmh. Ouais, c'est ça. Après, il y a eu toute une phase de dealer d'influence. Ça, là, j'ai l'impression qu'avec du recul, c'est une phase où. Est-ce que c'est pas un peu ta crise d'adolescence de l'entrepreneur?
C'est une bonne question. Je l'avais jamais vu comme ça. Je pense que moi, je suis quelqu'un en colère, pour être honnête. Tu vois. Mmh. J'ai une colère contre la société. J'ai une forme de révolte, tu vois, qui m'habite. Moins maintenant, ou en tout cas, peut-être que je la canalise mieux, mais en tout cas, voilà, ça a toujours été comme ça. Et je pense que dealer d'influence, c'était un peu un moyen de faire passer ma colère pour m'exprimer.
Ok.
Tu vois. Mmh. Donc, il y a eu cette espèce de dissociation de personnalité, si je puis dire, où voilà, j'exprimais mes idées, j'exprimais des trucs très tranchés, tu vois. En plus, j'étais assez clivant. Et voilà, ça m'a permis, dealer d'influence, de faire ça.
Mmh.
Un genre de masque, tu vois.
Ouais. Et globalement, ça se résume à quoi, cette phase-là de dealer d'influence en soi?
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bah, déjà, qu'est-ce que tu faisais professionnellement? Qu'est-ce que tu en tires aussi comme leçon par rapport à cette expérience-là? Parce qu'elle a duré plusieurs années quand même.
Elle a duré plusieurs années. En gros, voilà, juste pour replacer le contexte, en fait, tu vois, j'ai très souvent, bah, très longtemps, peut-être encore aujourd'hui, cherché ma place. Tu vois. Dealer d'influence, c'est venu, je dirais, un an après la partie dev perso, tu vois. Donc, j'ai fait du dev perso pendant 2 ans. Entre temps, j'ai fait du MLM, etc. Et en fait, le dev perso, je l'ai poussé jusqu'à reprendre mes études,
ouais,
en psychologie à la fac de Nanterre.
Ouais.
D'ailleurs, la partie révolte était très présente à ce moment-là parce que j'avais pas ma place. Tout de suite, j'étais en liste d'attente, etc. Donc, j'ai dû me battre. J'ai découvert les syndicats étudiants, qui sont des groupes très politisés. Donc, ouais, je me suis un peu imprégné de ces trucs-là et j'ai avancé en ce sens.
Mais t'es passé à la télé aussi.
Ouais, je suis passé à la télé. Et d'ailleurs, le lendemain, j'ai eu ma place.
Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un petit truc qui t'a poussé vers le branding où tu dis, ouais, il faut se montrer pour avoir sa place ou?
Bonne analyse, je sais pas. Peut-être. Ouais. Aujourd'hui, là, quand tu le dis, je me dis possible. Mais à la base, non, tu vois. Donc, j'ai repris mes, surtout que tu vois, je l'ai fait pour reprendre ma, pour avoir une place, tu vois. Je l'ai eu et ça n'a pas duré 5 ou 6 mois, peut-être même moins, tu vois. J'ai abandonné très rapidement parce que j'ai pas trouvé ma place là-bas. Et donc, je fais le bilan de ma vie, de ma carrière entrepreneuriale qui est à peine à ses prémices. Et je vois que j'ai pas fait 1 euro, mais que j'ai fait quelques centaines ou quelques milliers de followers à ce moment-là. Et je me dis, je rencontre des gens qui me disent, mais pourquoi tu vends pas ça, en fait? Notamment une personne. Je rencontre une personne qui me dit ça, qui est coach professionnel, que j'ai pas du tout rencontré dans ce cadre-là. Okay. Elle me coachait pas, mais voilà. Elle me dit, tu devrais essayer. Donc, j'essaye. Et ça marche. Et c'est cette même coach. Un jour, voilà, je fais un shooting photo avec une boutique de streetwear qui est à Belleville d'ailleurs.
Ouais.
Et donc je porte du streetwear. À ce moment-là, j'étais dans une phase genre peut-être que je devrais essayer le truc de l'influenceur. Okay. Je porte des vêtements, etc. Donc je joue le truc jusqu'au bout. J'essaie de représenter une marque qui en fait ne m'a jamais appelé pour la représenter.
Ouais.
Tu vois. Genre, je suis pas dans le fake it until you make it, mais presque. Tu vois. Je me dis j'essaye, on verra ce que ça donne. Et donc cette dame là me dit il y a un truc avec ce délire là de streetwear, tu devrais essayer le nom dealer d'influence. Donc okay, on est passé par plein de noms, mais elle me dit tu devrais essayer ça. J'essaye et j'aime bien, donc j'incarne le truc et ça m'a permis, voilà, j'ai oublié la question, mais ça m'a permis de ça m'a permis d'avancer
okay,
comme ça, tu vois.
Mais t'as répondu de toute façon. Ah, je m'y attendais pas, celle-là.
Bail de TDAH. Belle transition, allons-y, tu vois.
Belle transition, justement. On allait en parler un petit peu. C'est quoi le TDAH, déjà?
Le TDAH, c'est le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, avec ou sans hyperactivité. Il y en a qui ont juste le TDA, il y en a qui ont juste l'hyperactivité, il y en a qui ont les deux. Moi, j'ai les deux.
D'accord, ok. Tu l'as découvert il n'y a pas longtemps, ça? Ou tu l'as accepté il n'y a pas longtemps?
On va dire que je l'ai On me l'a diagnostiqué il y a pas longtemps, et encore on m'a pas dit que t'es TDAH, on me l'a dit sous une autre forme, mais moi j'ai compris, comme tu le disais, j'ai toujours su que j'étais différent.
Ouais.
Je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Ouais, ouais. Petit à petit j'ai commencé à découvrir les bails de zèbre, voilà, hypersensibilité, ouais, etc. Je me reconnaissais dans toutes les cases. Et puis donc je consulte il y a peu de temps, à mes 27 ans, donc il y a 3 ans, en 2021, donc il y a 2 ans plutôt, j'avais 28 ans. Je consulte un psychiatre qui me dit oui tout à fait, vous avez ce truc là de l'hypersensibilité. Et puis je continue d'approfondir ce concept et je me rends compte qu'en fait il y a un terme beaucoup plus clinique et donc beaucoup plus accepté d'un point de vue, je pense, psy, peut-être médical, je sais pas, neuropsy en tout cas.
OK.
C'est le TDAH et je me dis mais en fait voilà, j'ai ce truc là. C'est sûr et certain, j'ai ce truc là. Donc autodiagnostic, je sais pas si c'est très bien, mais je pense quand même que je l'ai, quoi.
OK. Et du coup ça te rassure, ça te complexe?
Sans plus, je me dis que ça me permet aussi de mettre une étiquette sur ce que j'ai, ça me permet d'avoir, tu vois, toujours ce truc d'identité, ça me permet d'identifier quelque chose chez moi et de d'en faire une partie de mon identité.
Ouais, de comprendre de certains comportements et tout.
Exactement, okay. Et de les faire comprendre aussi.
Et de les faire comprendre aussi, ça c'est super intéressant. J'ai l'impression que c'est aussi un tournant chez toi parce que non seulement tu comprends mieux des traits de ta personnalité, tu permets de l'expliquer autour de toi et ça peut aider les gens à mieux comprendre, mais est-ce que d'un point de vue business, ça aide aussi?
J'ai jamais associé les deux, à part que j'ai tenté un moment d'en parler dans certains de mes posts, mais j'ai vu que ça prenait pas, donc j'avais très vite arrêté. Maintenant, est-ce que ça...
En tout cas, sur la gestion, ou tu vois, sur...
Pas spécialement, je dirais pas que ça aide, tu vois, mais ouais. Ça me permet, quand dans les moments difficiles, dans les moments un peu qui sont liés au côté sombre du TDAH, ça me permet de me rappeler qu'il y a aussi des forces.
Ouais.
Et de me dire ces forces-là, elles me servent énormément dans l'entrepreneuriat, et d'ailleurs elles depuis que je sais que j'ai ce truc-là, je comprends aussi beaucoup mon parcours, tu vois. C'est ce phénomène d'abandon, ouais, de quête d'identité, de quête de ma zone de génie, de ma passion, etc. Cette capacité que j'ai à m'intéresser à beaucoup de choses, du coup à commencer des choses et à les arrêter forcément. Donc ça explique ça, mais est-ce que pour autant ça aide à mieux gérer? Non. Franchement, non.
Ok. C'est quoi la définition du progrès pour toi? Et c'est quand la dernière fois que tu t'es senti réellement progresser aussi? Parce que t'es un mec qui aime beaucoup le challenge, tu vois, comme gérer business chez vous, ce genre de choses. C'est des choses qui peut-être font peur aux gens, mais qui aident à se challenger et devenir une meilleure personne. Donc pour toi, c'est quoi la définition du progrès? Et elle date de quand, la dernière?
C'est quoi la définition et de quand date le dernier progrès que j'ai ressenti? Je vais peut-être dire un truc bateau, hein, mais le progrès pour moi c'est avancer et se sentir grandir, soit dans un projet, enfin c'est sentir avancer un projet, tu vois. Il y a des KPI qui te permettent de dire voilà, là j'ai avancé, là j'ai progressé là-dedans, il y a plus de chiffre d'affaires, il y a plus de visibilité, il y a plus de et puis après j'ai pas ma définition du projet, j'ai plus une définition communément admise du progrès qui est de se sentir avancé dans quelque chose.
Et pour toi, est-ce que tu dissocies le progrès personnel du progrès pro, ou pour toi c'est lié?
Non, les deux sont liés. Parce que qu'on le veuille ou non, tu vois, en France, j'ai l'impression qu'on a beaucoup ce truc-là. Enfin, je dis en France comme si j'allais aux États-Unis, quoi. Alors, pas du tout, tu vois. Je connais que la France. Mais j'ai l'impression que c'est quand tu te renseignes sur comment ça se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays, dans le milieu anglophone notamment. Que en France, le travail et la vie perso, c'est dissocié. Moi, je trouve pas, tu vois, parce que tu choisis un métier par rapport à ton appréciation de ce que tu apprécies déjà, et ton appréciation de tes capacités et de ce que tu sais faire. Donc, à partir du moment où tu reposes, où tu choisis ta carrière, où tu suis une carrière par rapport à ce que tu sais faire, par rapport à ce que t'apprends, et donc par rapport à là où tu progresses, ça fait partie de toi. Donc,
Ouais, ça dépend. Ça c'est pour les entrepreneurs comme toi et moi qui ont pris cette vocation là et qui veulent vraiment avancer dans ça. On prend l'exemple des parents, ils sont venus pour nourrir des bouches, tu vois.
C'est vrai.
Je pense que ça dépend, c'est peut-être binaire ou pas, mais en tout cas pour toi ça a été le cas.
Je peux te donner un exemple.
Dis-moi.
Un gars pas entrepreneur.
OK.
Il choisit une filière dans ses études supérieures.
Ouais.
Ok. Donc la majorité du temps, peut-être on va choisir parce qu'on te dit là-bas il y a des débouchés ou quoi. Mais à un moment donné, t'arrives en université, en école de commerce, en je sais pas quoi. Tu sais, enfin à un moment donné, tu choisis parce que tu dis ah tiens, ça me plaît plus de faire ça. Tu vois.
Ouais.
Je sais pas. Je connais très peu de gens. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais très peu. Et tu vois, encore une fois, je parle toujours en sens personnel. Tu vois, je peux pas faire de tout une généralité. Mais je me dis que, bah, à un moment donné, tu choisis une filière, tu te dis, bah, là, j'ai plus de facilité. Là, je sens que peut-être j'apprécie mieux l'histoire que le français. J'en sais rien, tu vois. Et donc, il y a toujours une part de je suis bon dans quelque chose ou j'aime ça ou je m'identifie parce que mon père il était médecin, bah je choisis la médecine. Mais du coup, il y a cette partie, ça fait partie de ton histoire parce que ton père est médecin. Peut-être tu veux le rendre fier, peut-être ça fait partie. Pour moi, chaque chose, chacune de ces choses fait partie de ton identité. Donc à un moment donné, le perso, le pro, tu peux pas les dissocier parce que c'est toi, tu vois.
Là, je suis d'accord. Quand tu dis que ça fait partie de ton identité, je te rejoins totalement. Et malheureusement, parfois ça fait partie de ton identité, mais à contre-cœur, tu vois. T'as des pères médecins qui veulent que leurs enfants soient médecins alors qu'ils veulent être artistes. T'as de tout en vrai. C'est ça qui est intéressant. Donc, ok. Et c'est quand la dernière fois que tu t'es senti progresser ou évoluer ou...
Caractéristique de quelqu'un qui a un TDAH, beaucoup de mal à valoriser son succès.
D'où ma question.
Si je dois déterminer où est-ce que j'ai progressé dernièrement ou vraiment je l'ai senti. Tu vois, senti sans pour autant le valoriser dans le long terme, sans pour autant fêter les succès ou quoi, fêter le succès en question. C'est quand j'ai lancé ma brand, donc mon dernier projet, où il y a une concrétisation quand même, tu vois, de mon parcours. Et où, pour la première fois de ma vie, je lance un truc et ça marche, quoi. Alors, ça marche, toute proportion gardée, tu vois. Mais, enfin, pour moi, ça marche. Genre, par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé, où j'ai fait beaucoup de choses et où j'étais pas satisfait de la réussite, entre guillemets, de ces projets-là. Mmh. Là, vraiment, je sens que j'ai progressé.
Déjà, tu peux pitcher ma brain, déjà, pour qu'on puisse savoir.
Bien sûr. Je vais boire de l'eau d'abord. Vas-y. Parce que c'est important.
Fais donc.
Ma brain, c'est une plateforme qui te permet d'automatiser ta création de marque et ta création de contenu. Je m'explique. Aujourd'hui, quand tu crées, quand t'es entrepreneur et que tu veux te rendre visible, aller chercher des clients, etc., tu crées du contenu. T'es obligé. Aujourd'hui, en 2023, si tu crées pas de contenu, t'es mort. Et cette plateforme-là, elle te permet de créer ce contenu-là et de créer du contenu personnalisé. Donc, tu y mets ton identité.
Ouais.
Ça te permet d'être authentique. Et elle te permet en fait de le faire en littéralement une minute, quoi.
Okay.
Une minute par jour. Et c'est un problème la création de contenu quand tu sais pas comment ça marche.
Ouais.
Donc cette plateforme, elle vient pour ça. Et la partie identité, elle fait partie de ce que je sais faire. Simplement, et de ce qui est important pour moi, le personal branding, toute cette quête d'identité que j'ai connue, etc. Et voilà.
Ok. Et donc, pour en venir à ce que tu disais juste avant...
J'ai pas bien travaillé ma proposition de valeur, mais...
on comprend, t'inquiète. Non, et puis, c'est le début aussi, donc elle va évoluer. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'as parlé du lancement, un peu comme quelqu'un qui lance son deuxième ou troisième disque, album, et que pour la première fois, il pète la première semaine, il a le disque d'or. Est-ce que c'est ça, un peu, cette sensation?
Disque d'or, je sais pas, mais en tout cas, franchement, ouais, et c'est pas mon troisième disque, c'est mon 19e disque.
19e disque,
ouais. Pour faire la dédicace au 19e, mais tu vois ce que je veux dire, genre, c'est vraiment, genre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup essayé de choses, et là, pour la première fois, effectivement, pour l'instant, c'est pas un disque d'or, mais au moins, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Je sens que je suis sur la bonne voie, tu vois.
Super. Ça fait le lien avec la prochaine question. Tu sais ce que c'est que le fil d'Ariane?
Ouais.
Et ben en fait, pour rappeler un peu aux personnes qui nous écoutent, le fil d'Ariane, c'est un peu tous les points communs qui sont liés un peu à notre parcours et qui nous définissent aujourd'hui. Toi, ton fil d'Ariane, il est très lié à l'image, mais pas mais tu sais, plus à pas au paraître, mais plus à la posture en soi. Et est-ce que t'as identifié un peu le sens caché de tous les projets que t'as pu faire jusqu'à aujourd'hui?
La quête d'identité, toujours.
Ouais.
Toujours, toujours, toujours. C'est vraiment trouver sa place. Qui suis-je? Comment me représenter? Comment faire valoir qui je suis aux autres? Il y a beaucoup, tu vois, c'est très lié à la communication. Vraiment. Ouais. Le fil d'Ariane, c'est l'identité, mais aussi la communication. Et ça va ensemble pour moi, tu vois. Comment communiquer qui je suis au monde? Tout simplement. Et moi, dans ma recherche d'identité, il y a aussi beaucoup je veux inspirer, aujourd'hui tout le monde veut inspirer quelque chose, tout le monde veut incarner quelque chose, voilà. Et ben je suis là-dedans, désolé. Okay. Je suis pas différent des autres, quoi.
Ouais. Merci pour la transparence. Super. Ma brand, tu l'as cofondée?
Ouais.
Avec
ma femme,
avec ta femme aujourd'hui. Evin qu'on à qui on passe un grand un ouais, grand salam.
Grand name dropping. Genre.
Grand name.
Souvenez-vous de ce nom parce que voilà, un
parce
jour.
Que, parce que Evin c'est quelqu'un, c'est, ouais. c'est quelqu'une aussi, tu vois, ouais. vraiment. Et est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce qu'il y a pas une forme de cadre qui s'est installé un peu plus?
Evin Katangi bientôt Tolba, juste pour.
Okay.
pour contextualiser, non. Est-ce qu'il y a une forme de cadre? Bien sûr, tu m'as, t'as sûrement dû regarder la vidéo de You Manage.
Oui, Najib qu'on embrasse.
Que du name-dropping dans ce podcast ouais. Ouais, qu'on embrasse. Il est passé d'ailleurs, je crois.
Ouais, ouais. Il est passé.
Et ouais, grand cadre, parce que tu vois, quand elle m'a connu, voilà, bon, tu vois, c'était pas, on n'était pas prédestiné à partager nos vies, hein, vraiment, genre, c'était, on s'est rencontrés, on s'est trouvé beaucoup de points communs,
ouais.
Dans plein de sujets, dans le parcours. On a des parcours, elle a bien dit, on a des parcours jumeaux un peu, tu vois. Ouais. Genre, elle a fait de la restauration, elle a jamais pu faire les études supérieures qu'elle aurait voulu, ouais. elle a repris ses études hyper tard comme moi. Donc, et le cadre qu'elle m'a apporté, c'est un cadre lié à l'excellence, en fait.
Okay.
Elle a une culture de l'excellence, c'est chaud, quoi. Genre, elle lâche jamais rien. Tu vois, si elle dit qu'elle a commencé, l'engagement, excellence, engagement, c'est des mots-clés chez elle. Quand elle dit qu'elle commence un truc, tu vois, même si elle doit le terminer à 3h du mat, elle termine à 3h okay. du mat, elle s'en tape.
Okay.
D'ailleurs des fois ça me saoule un peu, j'avoue, mais mais voilà, c'est elle a beaucoup de choses, elle porte beaucoup de choses sur son dos, et du coup elle a ce truc là, femme forte, tu vois,
ouais.
et c'est elle m'a apporté ce cadre là parce que moi je connaissais pas vraiment ça, tu vois, et puis surtout je me dévalorisais beaucoup autour de ça, du fait que j'abandonne beaucoup de choses, que je vais jamais au bout des choses, que j'étais un peu perdu à un certain moment, tu vois,
ouais.
Malgré, tu vois, par exemple deuxième succès qu'on pourrait citer, avoir travaillé chez Feed,
ouais.
tu vois. Pourtant, genre, il y a pas, j'ai pas été plus perdu qu'à ce moment-là, tu vois, parce que ce qui était censé être un succès, je sentais que j'étais pas, que c'était pas complet.
T'étais pas aligné avec ça, peut-être.
Je sais pas si c'était une histoire d'alignement, c'était plus une histoire de, j'ai trouvé.
Ouais.
Et après, je me rends compte que j'ai pas trouvé. Tu vois, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Des illusions un peu, genre.
Ouais, dans le sens où, tu sais, après il y avait une difficulté, c'était que bah je reprenais du coup un CDI alors que j'ai ce tempérament, je pense que d'ailleurs c'est ça qui a le plus joué, j'avais un tempérament d'entrepreneur et je me disais il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne, et à un moment donné j'ai lâché, ça m'a
ouais, je vois,
j'arrivais pas, tu vois,
je vois. Okay.
Donc voilà, elle m'a apporté ce cadre là à ce moment là précis d'ailleurs.
D'accord. Et quand je te parle d'amour, qu'est-ce que ça t'évoque?
L'amour ça suffit pas.
Mm-hmm.
Ouais, vraiment, genre c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. Genre, coup de foudre, amour, ça, ah ouais, bah, gros bullshit, ça. Hein. Ah ouais, on te vend, non, mais sincèrement, on te vend, et j'ai pas envie, contre cliché, on te vend l'amour dans les séries américaines, etc. Mais gros bullshit, parce que, quand il y a de l'amour, le jour où tu te rends compte, le jour où tu traverses des turbulences, le jour où tu te rends compte qu'il y a, du conflit, le jour où tu te rends compte que, finalement, les valeurs étaient pas alignées, en fait.
Ouais.
Bah, l'amour, ça tient plus.
Ouais.
Clairement. Et même si t'aimes la personne. Hein.
Ouais, bien sûr. Et de toute façon, ça fluctue, l'amour. Il y a des jours, t'es in love à fond, et puis d'autres jours, tu l'aimes un peu moins, t'as pas envie de voir. C'est normal aussi.
Exactement.
Ok. On arrive bientôt à la fin.
Déjà.
Déjà, ça passe vite. Ça passe très vite. Est-ce que t'as déjà vu la vidéo de Inoxtag? Inoxtag, le jeune youtubeur, là, qui explique l'anecdote de sa première paye par rapport à ses vidéos.
J'ouvre la porte, je fais « Ouais, papa, j'ai gagné 1300 euros, papa, maman, j'ai gagné 1300 ». Et je parlais tellement vite, j'étais ultra excité. Et là, mon père, « Oui, oui, allez, à d'autres, oui, arrête de nous prendre pour des cons. C'est sûrement les V-Bucks ou machin, tu vois. » Il se foutait de ma gueule, tu vois, il me disait « Ouais, c'est pas vrai ». Et je dis « Non, je te jure, j'ai gagné ». Il me dit « Bah, tu montreras, on verra si c'est vrai quand tu les auras ». Et là, je reçois, je fais « Et là, je montre à mon père, il fait « Ah ouais ». Et là, mon père, après, il m'a beaucoup aidé à partir de ce moment-là.
Ce qu'il explique là, pour moi, c'est pas du tout... si, justement, c'est anodin, dans le sens où, malheureusement, c'est quelque chose que on voit beaucoup autour de nous. Que ce soit les proches ou les potes qui sont là, qui croient pas forcément à ce que tu dis, parce que c'est un truc qui est totalement différent de ce qu'ils connaissent et tout. Parfois, il faut le prouver à ses proches qu'on peut faire quelque chose avant de leur en parler. Est-ce que toi, c'est ton cas? Pour éviter d'être déçu ou triste ou pas supporté, tu vois?
Franchement, je vais dire, regarde, la vérité, je vais te donner l'exemple de ma mère. qui est la personne que j'aime le plus au monde, mais qui ne m'a jamais comment dirais-je, c'est pas de sa faute, hein, mais elle m'a jamais soutenu dans ce que je faisais. En tout cas, je me suis jamais senti soutenu.
Okay.
Alors j'ai pas envie d'être un fils ingrat, donc peut-être qu'en fait il faudrait quand même voir, tu vois, quand je dis ça, c'est pas vraiment vrai, parce que tu vois, quand elle m'a hébergé longtemps, elle m'a nourri, elle m'a habillé, tu vois, c'est ça sa façon de me soutenir.
Ouais,
tu vois, elle l'a pas fait par les mots, elle l'a pas fait par l'attitude, mais en fait c'est pas de sa faute, c'est que elle vient d'un, elle a grandi d'une certaine manière, elle a été éduquée d'une certaine manière, que ce qu'on vit aujourd'hui, nos parents, la majorité, ils le comprennent pas. Surtout quand t'es issu de l'immigration, tu vois, tu lui dis, ouais, maman, je vais monter une boîte, je vais rien gagner pendant peut-être un an, tu vois, genre, elle se dit,
t'es gentil, là, en plus.
En plus, tu vois, genre, elle me dit, mais non, mais va travailler, pourquoi tu travailles pas?
Ouais.
Tu vois, genre, elle, ça dérangerait même pas que j'aille travailler, je retourne chez McDo ou que je retourne en cuisine ou quoi, elle me dit, mais fais de la restauration, tu sais faire de la restauration. Donc, bref. Plein de fois, on s'est foutu de ma gueule, tu vois, des amis que je pensais proches et tout, ils m'ont foutu de ma gueule ouvertement et tout, devant d'autres personnes en plus, tu sais, ça, c'est, tu te sens humilié un peu à ce moment-là, tu te sens pas compris et tout. Mais tu vois, si je reprends l'exemple de ma mère, elle sait pas ce que je fais aujourd'hui. Elle comprend pas.
Et donc, ma question, elle est là aussi, est-ce que t'attends de, entre guillemets, sécuriser pour montrer après plus tard? Enfin, quand je dis sécuriser, c'est voilà, c'est bon, ça fonctionne et ça va fonctionner sur du long terme, regarde.
On sait jamais si ça va fonctionner sur du long terme.
Ouais.
Tu vois.
Mais t'as quand même quand même une espèce de base qui fait que t'as un truc qui est tangible et t'as un truc vraiment qui est sécurisé au moins sur quelques années.
Oui. La réponse à ta question, c'est oui. Ouais. Bien sûr. Après, est-ce que je, tu vois, genre, et c'est peut-être aussi ça, tu vois, qui joue, c'est que comme je valorise pas forcément mes succès.
Ouais.
Où j'ai beaucoup de mal.
Mais c'est aussi à cause de ça, non?
Clairement. Bah oui, bien sûr. C'est le fait qu'on m'ait jamais dit, ouais, c'est bien mon fils, ou c'est bien, tu vois, genre, voilà, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à me dire c'est bien ce que je fais. Et du coup, bah ouais, peut-être que j'attends, mais en même temps, je m'en fous un peu, quoi. Genre le jour où je vais aller la voir, je vais dire ouais maman, regarde, j'ai réussi ça. Je m'attends pas à ce qu'elle dise ah trop bien et tout. Donc du coup, je me dis ouais bah, voilà maman, j'ai réussi ça. Bon sinon tu vois, genre tu veux que j'aille acheter ta nouvelle machine à laver ou tu vois ce que je veux dire? C'est tout.
OK, ça marche. Dernière question pour toi, tu connais les Neg Marron?
Ouais, bien sûr.
Si tu devais faire le bilan, et tu vas me dire de quoi, Gisard, de ce que tu ressens.
Déjà, je sais pas ce qu'on a bilan. Genre, j'aurais pas dire c'est quoi le bilan, tu vois. Je connais le bilan comptable et c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Nivine. Et
tu veux qu'on appelle pour qu'elle fasse le bilan?
Non, non, c'est pas ça. C'est que vas-y. En gros, si je dois faire le bilan, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. J'en traverse encore aujourd'hui sous différentes formes. Mais c'est pas fini, quoi. Et j'ai réussi beaucoup de choses aussi à travers, grâce à ces épreuves. Et c'est pas fini. Genre, si je devais faire le bilan, ça tient dans, c'est pas fini, tu vois.
Ok. Et si tu devais te dire un truc gentil à un mec qui s'appelle Samy, tu dirais quoi? Pour ces 10 dernières années. Passer avec lui, en tête à tête.
T'es un bavon. Lâche pas l'affaire. Ça va payer.
Ok. Donc là, c'est le mec du 19 qui a parlé, là.
Ouais.
Alors, bah merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Samy?
On peut me retrouver sur LinkedIn, Samy Talba. On peut me retrouver sur Insta, @samy.tlb. Et on peut me retrouver bientôt sur vos écrans de télé.
Ok. Alors, c'est du teasing ou c'est une intention que tu places?
Ouais, c'est une intention.
Bah, je te le souhaite. Alors, bah écoute, merci à toi.
Merci, Samy.
Ok, c'est terminé. Comme d'habitude, ce que je retiens en un. Tu peux faire tes propres choix et rendre fiers tes proches par la même occasion. En 2, savoir se perdre pour trouver ce qui nous plaît profondément. En 3, l'amour ne suffit pas. Mais ça, on le sait déjà. Allez, on s'attrape.